Merci au professeur Albert-Claude Benhamou de son invitation. C'est assez impressionnant de passer derrière le professeur Olivier Houdet. Puisque j'en suis au remerciement, je voudrais aussi remercier mes collègues et amis Michel Desmurgeais, chercheur à l'ISC, Institut de sciences cognitives de Lyon, et Jean-Philippe Lachaud, chercheur à l'INSERM au Vinatier où je travaille, ainsi que l'ingénieur documentaliste qui m'a beaucoup aidé pour les documents que je vais vous présenter, Paul Belloucha, à l'hôpital du Vinatier. Voilà, c'est fait, comme ça, je n'oublierai pas à la fin. Alors, je vais vous parler donc de quelques éléments apportés par la recherche sur les sciences, les neurosciences, sur le développement cognitif de l'enfant des nouveaux médias. On assiste donc à une explosion des nouvelles technologies numériques et des nouveaux médias. Les moyens financiers sont colossaux, et en particulier ceux mis par l'industrie du divertissement dans ces nouvelles technologies, et ça a évidemment beaucoup stimulé les réalisations. Regardez le résultat. On est passé il y a 30 ans de ceci, Pac-Man, à des choses quand même assez spectaculaires, comme voici un extrait d'un moteur de gestion 3D. Aucun détail n'a été négligé, hein, vous voyez les reflets dans l'eau, le vent dans les arbres, le mouvement des feuilles, c'est vraiment très beau. Cependant, pour l'instant, il est rare qu'un logiciel éducatif bénéficie des prouesses technologiques développées pour les jeux de tuerie. Il ne fait pas de doute qu'un marché important est prêt à se développer. Regardez par exemple le site du PEGI. PEGI, c'est les recommandations pour les âges des jeux vidéo. C'est un site qui émane du syndicat des éditeurs de logiciels de jeux vidéo. Et si vous pouvez lire, mais ça doit être difficile, le contenu du texte, vous verrez qu'il ne manque pas d'idées pour, à mon avis, rentrer dans le domaine de l'éducation. En tout cas, c'est ce dont ils ont envie. Je pense qu'ils ne demandent qu'à gagner leur lettre de noblesse, et c'est d'ailleurs ce que dit Zoran Popovic dans le blog du Monde de l'éducation en date du 3 novembre 2011, donc cet homme qui dirige un laboratoire de recherche sur les jeux vidéo à l'université de Washington, hein, et qui est d'ailleurs le créateur du jeu Fold It dont parlait hier Monsieur Taddei, dit les jeux scientifiques vont révolutionner les apprentissages. Voilà, accessoirement, le New York Times du 10 septembre 2011 dit la chose suivante. L'industrie du jeu vidéo est à l'heure actuelle la plus subventionnée des États-Unis, en tout cas une des plus subventionnées. Dans ce paysage, je voudrais parler donc des nouveaux médias, et c'est vrai que c'est un sujet large. Pour s'orienter dans la question des médias, je voudrais prendre quelques idées de cet homme remarquable, Marshall McLuhan, théoricien des médias canadien, qui a publié en 1964 un livre qui fait encore référence pour l'étude des médias, qui s'appelle Understanding Media. Et son dernier ouvrage, The Laws of Media, donc les lois des médias, écrit avec, co-écrit avec son fils, est publié en 88, mais 8 ans après le décès du père. Marshall McLuhan est resté célèbre pour un certain nombre de formules, dont le média est le message, ou celle-ci sur laquelle nous allons revenir, et ou celle-ci qui est intéressante aussi, we shape our tools and thereafter our tools shape us, donc nous donnons forme à nos outils, après quoi ce sont eux qui nous donnent forme. Les neurosciences apportent des confirmations d'observations de McLuhan 40 ans après leur formulation. Ainsi, par exemple, cette étude d'imagerie cérébrale, tout à fait intéressante, hein, qui montre que la main gauche du violoniste est surdimensionnée au niveau du cortex moteur par rapport au sujet contrôle. Et donc, c'est les heures de pratique musicale, hein, qui ont eu pour conséquence la restructuration enfin, l'augmentation de volume, hein, des structures cérébrales. Olivier Houdet parlait à l'instant de la plasticité, donc on en voit les effets. Nos outils nous donnent forme. De la même façon, l'hippocampe, alors l'hippocampe dont parlait tout à l'heure Bérangère, qui est la structure du souvenir, mais aussi la structure de l'orientation spatiale, enfin une des structures impliquées, hein, et donc chez les chauffeurs de taxi londoniens, l'hippocampe augmente de volume. Donc vous voyez à quel point nos outils nous façonnent, et notre activité nous façonne. En tout cas, au niveau neuronal, c'est très clair. Alors, voilà, la fameuse phrase « le média et le message », je pense que ça vaut le coup de revenir dessus parce qu'elle est intéressante. McLuhan entend comme média, non pas ce qu'on met habituellement, c'est-à-dire ce qui est entre, hein, ce qui est intermédiaire, mais toute extension de notre corps ou de notre esprit. Et vous allez voir, c'est une définition assez large et intéressante. Le message, quant à lui, est le... le contenu, pardon, pas le contenu justement, l'influence qu'exerce le média sur la société ou sur l'individu. Hein, et dans l'idée, le média et le message, ce qui est important, ce que McLuhan défend, c'est que le changement que le média induit au niveau de la société, plus encore que le contenu, est le message. Et la formule a beau avoir été reprise de nombreuses fois, elle n'en reste pas moins difficile à concevoir. Pour s'en convaincre, je vous propose de reprendre les débats sur les effets de la télévision. Immanquablement, le débat retombe sur la question de la qualité des contenus des programmes, alors que les effets du média sont bien plus larges et relativement indépendants du contenu. Par ailleurs, puisqu'on parlait des lois des médias, il propose quatre questions intéressantes sur un média quel qu'il soit. Qu'est-ce que le média étend de notre corps ou de notre esprit ? Et qu'est-ce qui le rend obsolète ? Après deux autres questions dont je me servirai moins aujourd'hui, que retrouve-t-il d'un fonctionnement plus ancien, plus archaïque ? Et quand on pousse l'utilisation du média à son extrême, en quoi se renverse-t-il avec cette dualité ? Voilà, alors je vais prendre quelques exemples et voir en quoi cette façon de voir les choses est intéressante du point de vue de, même des nouveaux médias et en quoi les neurosciences illustrent. Premier exemple, la question de l'écriture et en particulier cette hésitation, hein. Est-ce que, comme le proposeraient certains, assez facilement, on ne pourrait pas finalement abandonner le stylo qui est plus très utile pour apprendre directement à écrire au clavier ? Alors, outre le fait qu'on n'est pas sûr que le clavier existera encore dans quelques années, ce qui est très intéressant, c'est ce que, du point de vue de ce que le clavier étend, bon, comme le stylo, on va dire, hein, il étend la fonction de la main, qui est la fonction d'écriture, pardon, on pourrait dire ça, hein, il étend la main dans sa fonction d'écriture, mais surtout, qu'est-ce qu'il rend obsolète ? Et alors là, par contre, ça devient très clair, le clavier rend obsolète le geste graphique. Quelle importance, me direz-vous ? Alors, je vais prendre pour illustration les travaux de Marie-Éque Loncamp et de Jean-Luc Velay, donc une équipe française, de nombreux travaux, en fait, hein, là, j'ai mis un des papiers, toutes les références sont communiquées et seront, j'imagine, sur le site. Alors, c'est des études d'imagerie. Vous voyez par exemple ce qu'ils ont fait, c'est très intéressant. Ils ont comparé, vous voyez à droite, en écriture, en haut, des lettres, en bas, des non-lettres. Vous voyez que dans les deux cas, et c'est cerclé de rouge, les zones motrices du cerveau s'allument. Jusque-là, c'est normal. Il y a d'autres zones qui s'allument, évidemment. Vous voyez en postérieur, c'est-à-dire le plus à droite, les zones visuelles, c'est normal. Quand vous écrivez, vous regardez aussi. Quand vous écrivez, vous utilisez votre motricité, donc la zone motrice s'allume, ça jusque-là, tout le monde est d'accord. Maintenant, regardons à gauche. Et à gauche, vous avez en haut l'écriture de lettres et en bas l'écriture de non-lettres, hein, des choses que vous n'avez jamais apprises à écrire à l'école. Et étonnamment, la zone de la motricité s'allume quand vous lisez des lettres que vous avez apprises à écrire. Et alors, à la limite, on pourrait toujours dire, bon, ben, c'est pas forcément nécessaire pour les reconnaître. Mais en tout cas, on voit clairement qu'il y a une différence entre ces lettres qu'on a apprises avec un geste graphique et des lettres qu'on n'a juste pas apprises, mais qu'on est capable de reconnaître. Pour pousser plus loin ces recherches, ils ont appris, alors, les tests ont été faits, c'était pas les mêmes, hein, il y a eu des choses faites avec les enfants, comparaison, clavier, écriture, et là c'est sur des adultes, et on a appris à des adultes à reconnaître des caractères du langage tamoul. Je sais pas si vous avez déjà vu des lettres du langage tamoul, mais c'est évidemment très différent des nôtres, assez complexe. Et on voit que s'il s'agit de les apprendre et de les reconnaître avec un clavier ou avec un stylo à zéro semaine, on peut dire que c'est quasiment identique, hein, les résultats. Regardez la progression dans le temps. Une semaine après, deux semaines après, la stabilité de l'apprentissage n'est pas du tout la même. Et là, une interprétation des auteurs, hein, mais qui est validée par de nombreux travaux qu'ils ont fait autour de ces questions, c'est que le geste graphique, non seulement il s'allume dans le cerveau au moment où vous lisez, mais surtout, il est essentiel dans la mémorisation du langage écrit, et en particulier parce que le geste que vous faites quand vous écrivez inclut des notions d'orientation spatiale qui ne sont absolument pas présentes quand vous tapez une lettre sur un clavier. Globalement, le geste est le même, quelle que soit la lettre que vous tapez. Au passage, ceux qui auront appris avec le clavier feront beaucoup plus de confusion d'orientation dans les lettres, comme le feraient certaines personnes dyslexiques, hein, P, B. Là encore, c'est à la fois les travaux de Stanislas Dehaene, et puis ça rejoint ce que disait Olivier Houdet sur la question de l'inhibition, hein, c'est-à-dire apprendre les lettres, c'est inhiber l'équivalence qui dit que ceci et ceci, c'est le même objet, ce qui, a priori, dans la nature, est quand même beaucoup plus utile dans un premier temps. Mais dans ce cas particulier de l'écriture, la question de l'orientation spatiale devient essentielle. Je voulais citer cette petite phrase de Vallon, psy du développement, et qui disait « L'intelligence, c'est l'instrument de connaissance, sort de l'action et y retourne. Hein, » Construire l'intelligence, ça part beaucoup par la manipulation et par le geste, et on ne peut pas en faire l'économie, en tout cas pas complètement. Voilà. Je vais prendre un deuxième exemple du côté du système attentionnel. L'écran lumineux comme moyen d'attirer l'attention donc est connu depuis longtemps, puisqu'on retrouve dans l'unité d'hospitalisation du docteur Bourneville à Bicêtre en 1897, le musée scolaire. Et dans le musée scolaire, il y avait 857 vues, dont on nous dit qu'elles touchaient des sujets aussi variés que la géographie, la géométrie, les machines à vapeur et la lecture. Donc là, il s'agissait en plus d'un endroit qui recevait des enfants déficients. Donc très certainement, le fait de projeter sur un écran capte l'attention, ça on en est sûr. D'ailleurs, le système a été après perfectionné, ça s'appelle la télévision. Ça étend la fonction de l'œil au sens de McLuhan, ça fait la preuve de son efficacité comme moyen d'agripper l'attention humaine pendant des heures et surtout l'attention de celui dont le système attentionnel est encore immature, c'est-à-dire l'enfant. Les neurosciences ont largement documenté comment les modifications d'intensité lumineuse captent l'attention en activant nos réflexes d'orientation de la vigilance, et donc ça rend difficile de détacher le regard. Cependant, qu'est-ce que la télévision rend obsolète ? Elle rend obsolète, en tout cas elle ne stimule pas, éventuellement elle atrophie sur le long terme, la capacité à poser intentionnellement l'attention sur l'objet, une attention que l'on appelle endogène par opposition au système exogène de l'orientation qui est très utile du point de vue de l'évolution, un prédateur, quelque chose qui bouge dans l'environnement, c'est là qu'il faut diriger l'attention. Mais n'empêche que pour résoudre des tâches de raisonnement, ce qui est important, c'est une attention endogène, et ça malheureusement, il est maintenant clairement documenté que l'écran qui brille et qui bouge, c'est très rigolo, mais ça ne développe pas l'attention endogène. Alors, rappelons d'ailleurs que les espoirs de la télévision au niveau de l'éducation étaient quand même très grands, puisqu'il y a eu ce programme fameux, Sesame Street, très étudié par la BBC. Au passage, tellement étudié que certaines personnes disaient que c'est de la manipulation mentale des enfants, il ne faudrait pas faire des choses pareilles. Non, on ne se pose plus trop les questions en ces termes, peut-être à tort. En tout cas, il y avait des a priori positifs sur à quel point ça pourrait être intéressant d'apprendre par la télévision, et l'apprentissage sans effort volontaire et sans participation cérébrale active fait de peu d'effet. Et de plus, comme le fait remarquer Neil Postman, grand théoricien des médias aussi de New York University, brillant livre « Se distraire à en mourir » qui est ressorti en français récemment. Il dit au sujet de Sesame Street, « La télévision enseigne le mieux à regarder la télévision. » Hein, il y a une abondante littérature scientifique sur la consommation d'écran et les difficultés attentionnelles ultérieures. Voilà ce que disent les neurosciences sur les nouveaux médias. Alors après, des données peut-être plus fragmentaires, mais quand même intéressantes à connaître plus dans le domaine de l'ordinateur. Hein. C'est parfois légèrement contre-intuitif, mais donc on voit qu'effectivement les ordinateurs ont évolué de façon remarquable, mettant des puissances de calcul à portée de main qui ne nous étaient pas possibles il y a quelques années. Les logiciels demandaient avant d'ailleurs des phases d'apprentissage parfois laborieuses, et maintenant les mêmes logiciels prennent la main de l'utilisateur, lui simplifient la tâche, les menus déroulants, les saisies semi-automatiques. Ils étendent notre puissance de calcul au sens de McLuhan, mais ils nous déchargent de cet effort cognitif. Et cet effet-là est mesurable. Ainsi, aux Pays-Bas, Christophe van Nimwegen a fait un travail très intéressant qui a été ensuite relayé dans le New York Times, parce que c'est quand même assez novateur. Il a comparé des interfaces de logiciels plus ou moins aidantes pour les utilisateurs sur des tâches de raisonnement, hein, c'est-à-dire un jeu de stratégie avec des balles et des boîtes. Et puis, en gros, ce que fait n'importe quel logiciel, d'ailleurs même d'échec, hein, quand vous, par défaut, vous cliquez sur la pièce que vous voulez bouger et puis vous affiche les mouvements autorisés, par exemple. Eh bien, en tout cas, clairement, ce qui a été montré, c'est que dans le cas de l'interface la moins aidante de l'utilisateur, il y a effectivement un effort cognitif plus important, mais 8 mois plus tard, les performances étaient 2 fois meilleures dans le groupe qui s'était servi de l'interface la plus dépouillée. Hein, donc, de la même façon pour l'écriture, la stabilité de l'apprentissage est beaucoup plus proportionnelle à l'implication cognitive de l'utilisateur. Donc, évidemment, on imagine mal un éditeur de logiciels qui qui choisiraient de faire des logiciels peu ergonomiques par souci de développer la cognition de l'utilisateur. Mais peut-être que dans le cas de l'éducation, ça pourrait se poser. Voilà, tous les buts ne sont pas les mêmes. J'ai oublié de dire quelque chose. Je me situe aussi du point de vue de quelqu'un qui s'occupe d'enfants. Je suis pédopsychiatre. Et je pense que le point de vue n'est pas du tout le même, qu'on s'occupe d'adultes, qu'on s'occupe d'enfants, qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur, de développer l'intelligence, la mémoire, le raisonnement, enfin, voilà. Je crois que ça, dans les débats depuis hier, en tout cas, c'est quelque chose qui m'apparaît clairement. Il y a des points de vue très différents. Tout à fait. Et alors, attendez, par contre, je retrouve mon fil. Alors, un dernier exemple, un avant-dernier exemple, mais rapide, celui-là. Les médias hyper-médias, hyper riches, donc de grands espoirs, hein, après l'audiovisuel, le multimédia. On s'était dit, ça y est, le sujet va être au centre de son apprentissage, il va pouvoir cliquer vers ce qui l'intéresse, et donc c'est sur mesure, on imagine que le cerveau se réjouira et que les contenus iront d'autant mieux trouver leur place sur des neurones enthousiastes. Hein. Et de plus, les présentations associant quand même le son, l'image, la voix de l'orateur sont, paraît-il, beaucoup plus plaisantes pour l'auditoire. Et donc potentiellement plus riche pour les apprentissages. Neil Postman soulignait dès les années 80 ce dilemme quand même, hein, et dit est-ce que c'est pas quand même un besoin de tout présenter comme un sujet de divertissement de peur de ne pas pouvoir garder l'attention de l'auditoire. Alors c'est vrai qu'à l'heure où l'auditoire a faim, c'est peut-être utile de faire comme ça, mais par contre le problème c'est que oui, ça, j'ai presque fini là en fait. Le problème de tout ça, c'est que les tâches, le multimédia est tué par l'abondance de contenu, hein. Trop de contenu, surcharge cognitive, et en fait, on s'aperçoit quand on associe les modalités ensemble, et il y a suffisamment d'exemples dans la littérature qui montrent qu'on retient moins, malheureusement. Et de la même façon, un texte hypermédia avec des liens partout, eh bien, paraît plus obscur au lecteur que le texte simple. Voilà. Donc, c'est quand même des données intéressantes à connaître. Je trouvais important de dire un petit mot du marketing de l'intelligence, hein, avec par exemple cette publicité de la rentrée où on promet des bonnes notes aux élèves parce qu'ils auront un traitement de texte, ou alors le célèbre programme d'entraînement cérébral dont peut-être on parlait plus ou moins tout à l'heure, là, qui a quand même séduit aussi bien les parents des enfants d'âge scolaire que les personnes âgées qui ont peur du vieillissement cérébral. Il me paraît intéressant de rappeler quand même les travaux du professeur Alain Liori, hein, qui a publié là-dessus, et qui montre que l'entraînement cérébral en question ou les jeux de pif gadget, papier crayon, c'est du même niveau et ça marche dans les mêmes proportions. Il est intéressant de voir que ce n'est pas uniquement des données du laboratoire de psychologie, mais que dans la vraie vie, l'ordinateur n'est pas toujours à la hauteur des espoirs. Hein. Par exemple, 4 mai 2007, New York Times, certains établissements scolaires américains renoncent au programme à un ordinateur par élève parce que non seulement ça n'améliore pas les performances, mais souvent ça les dégrade. De la même façon, l'étude de PISA montre que la présence d'un ordinateur à la maison, bon, c'est vrai que c'est sympathique de réduire les fractures numériques, mais la présence d'un ordinateur à la maison est malheureusement plutôt un facteur qui détériore les choses. Par contre, la dernière étude PISA en question dit que des parents qui sont disponibles pour aider un enfant pour les devoirs augmentent plutôt les résultats, quel que soit le niveau d'étude des parents. C'est intéressant. Enfin, quelques revues grand public, dont celle qu'avait Olivier Houdet tout à l'heure à la main, la traduction française de ce bouquin excellent de Nicolas Carr sur les effets d'Internet. Celui-ci encore plus intéressant, The Dumbest Generation de Mark Boyerlein, dont je ne crois pas qu'il soit traduit en français. Quelques mots de conclusion. La morale de cette histoire, hein, c'est que ce n'est pas parce qu'un média est nouveau et technologique, sophistiqué et complexe, qu'il a forcément une valeur ajoutée en tant que tel pour le développement cognitif. Il ne faudrait pas extrapoler en plus les effets d'un média chez l'adulte qui a acquis la maîtrise des compétences de base et qui peut après s'en passer, je pense à l'histoire du clavier, après tout que nous on écrit sur des claviers tout le temps, mais pourquoi pas? Mais il ne faut pas superposer nécessairement à l'enfant chez qui les compétences sont à acquérir, et je pense en particulier à l'attention à l'écriture, hein, par exemple, qui demande des heures de vol. Et ça, on ne peut pas faire l'économie de ça. Les neurosciences apportent donc des arguments forts en faveur de ce qu'on pourrait appeler l'importance de l'effort cognitif hein, dans le développement intellectuel. J'aime beaucoup cette citation de John Cage, le compositeur. Il est mieux de faire un morceau, de composer donc un morceau de musique que de jouer un morceau de musique en concert. Mieux de le jouer en concert que de l'écouter. Mieux de l'écouter que d'en mésuser afin de distraction, de divertissement ou d'acquisition de culture. Sans faire trop d'hypothèses sur ce que signifie le mieux dans cette citation, on peut imaginer qu'il s'agit du mieux du point de vue de la personne et de la satisfaction personnelle aussi d'ailleurs. On est tous très heureux de pouvoir écouter des CD dans notre salon avec les meilleurs interprètes du monde, mais du point de vue cérébral, ça ne produit pas les mêmes effets que de jouer la musique nous-mêmes. La science du XXIe siècle, en plus, a à la fois développer des outils fantastiques pour regarder le cerveau en action, mesurer des tas de choses, et en même temps les outils mathématiques pour tester différents types de traitements, de démarches, etc. Je voudrais citer vraiment, ça me paraît utile, les travaux d'Esther Duflo, hein, chercheuse française actuellement professeure au MIT, qui a eu la chaire Savoir contre pauvreté au Collège de France en 2008-2009, et qui teste beaucoup de mesures pour tester leur efficacité sur la question de la scolarité, l'éducation. Et on trouve par exemple dans ces études un travail en Inde où elle montre qu'un ordinateur a pu avoir un effet tout à fait mesurable sur une certaine population dans un certain contexte sur l'apprentissage des mathématiques. Et elle liste un certain nombre de travaux qui ont montré l'absence d'effets, voire des effets négatifs. Je pense qu'il y a vraiment des tas de choses à prendre en compte. C'est donc le moment d'étudier les nouveaux médias et leurs effets, parce que quand ils seront omniprésents, ce sera plus difficile. Et ça, ça fait penser à une phrase que disait Marshall McLuhan, « Nous ne savons pas qui a découvert l'eau, mais nous savons que ce n'était pas un poisson ».